Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins, pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour, 12 décembre 2023, fin de la COP numéro 28 du climat à Dubaï. Quel est le bilan de cette énième COP ? Quelles avancées en faveur du vivant ont été réalisées lors de cet événement ? Comment peut-on repenser les COP pour des avancées plus fortes et rapides en faveur du vivant et du climat ? N'y a-t-il pas des voies alternatives pour que des projets soient mis en œuvre dans l'immédiat ? Avant toute chose, rappelons le contexte de cette conférence des parties réunissant 198 pays pendant 2 semaines, afin de prendre des mesures à la hauteur de la crise écologique majeure que nous sommes en train de vivre. La température moyenne du globe ne cesse d'augmenter. Des 1 degré initialement prévu, nous avons désormais atteint plus 1,43 degré en 2023, ce qui pulvérise littéralement l'accord de Paris, voulant limiter le réchauffement climatique global à 1,5 degré. L'augmentation de cette température accélère et remet gravement en question la capacité des COP à agir concrètement sur cette situation. À l'heure où je vous parle, la COP 28 stagne sur des engagements, encore et toujours non contraignants juridiquement, pour que 4 milliards des 38 milliards de CO2 émis avec le secteur de l'énergie soient résorbés. Cela représente seulement 30% de ce qu'il faudrait retirer des émissions, afin qu'en 2050, on atteigne la fameuse tant espérée neutralité carbone. Dans les grandes annonces, 130 pays, mais pas la Chine, veulent tripler les énergies renouvelables et améliorer l'efficacité énergétique d'ici 2030. De même, une charte signée à ce jour par 52 compagnies pétrolières et gazières pour réduire les fuites de méthane continue de circuler dans les rangs de la COP. On remarquera aussi le texte en négociation sous l'égide de l'ONU, dans lequel une centaine de pays veut inscrire un appel à sortir des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz. Ce texte est loin d'être adopté pour l'instant, car plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite, qui préside la COP, s'y opposent. Pour l'instant, on ne parle que du charbon directement, en clamant que les pays du G7 doivent montrer l'exemple. Or, le charbon concerne avant tout d'autres continents. En effet, 80% de la consommation mondiale a lieu en Asie, dont 55% pour la Chine. Les seules centrales à charbon de ce pays émettent autant que l'ensemble des voitures et camions dans le monde. Le G7 représente environ 11% des émissions. Ainsi, en parlant du charbon, on aurait tendance à mettre de côté le pétrole et le gaz, alors que ces derniers ont des utilisations bien plus diversifiées et répandues dans les pays européens. Vous l'aurez compris, la COP28 ne sera probablement pas sur la même lignée évolutive que celle de 1997, avec l'accord de Kyoto, et les COP à venir ne traduisent pas le meilleur avenir de ce système pour de nombreux scientifiques et militants. Et pour cause. La COP16 de la lutte contre la désertification se tiendra en décembre 2024, en Arabie Saoudite. La COP16 biodiversité devait avoir lieu en Turquie, mais les tremblements de terre survenus en février 2023 les contraignent à annuler l'accueil de cette COP. Ainsi, l'appel est lancé pour qu'un pays assure cette prochaine COP. Pour rappel, celle-ci a 3 objectifs principaux. La conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques. Pour récapituler, la COP climat actuelle est à Dubaï et la prochaine sera dans l'Azerbaïdjan, un pays du Caucase grand producteur de pétrole. La prochaine COP lutte contre la désertification aura lieu dans un énième pays gros producteur de pétrole. La prochaine COP biodiversité n'a actuellement plus de pays attribués. Cependant, rappelons qu'un pays a déjà déposé sa candidature il y a un an. Nous l'avions évoqué l'année dernière lors de l'épisode Feuille de chou pour la COP 15 biodiversité à Montréal. À votre avis, de quel pays est-il question ? Quel pays voit partir en fumée les trois quarts de sa forêt pour y planter des cultures qui seront ensuite exportées à travers le monde entier sans que la population locale en soit bénéficiaire ? Un indice peut-être. Autrefois, on le nommait poumon vert de la terre, mais ses forêts sont désormais si dégradées que le carbone émis place progressivement ce secteur comme source de carbone. Oui, c'est bien le Brésil. Rappelez-vous, le président brésilien avait souhaité accueillir la COP 16 biodiversité pour montrer les ravages de l'exploitation humaine sur l'Amazonie. Surprise, surprise, restons à l'affût de celui qui aura l'honneur de lancer les conversations. Notons cependant que la mise à bas de la confiance envers cet événement planétaire, supposé limiter les dégâts de nos modes de vie sur notre environnement, a déjà des conséquences sur la façon dont les citoyens conscients des enjeux réagissent. Certains se mobilisent localement, un petit peu partout dans le monde. Que ce soit les COP alternatives qui ont vu le jour cette année sous l'effigie des scientifiques en rébellion, ou les tables rondes citoyennes mises en place par les élus communaux, ou bien encore des rencontres territoriales entre acteurs publics et privés, comme cela a été le cas dans de grandes villes comme Lille. Des citoyens s'agitent donc et mettent à l'ordre du jour l'avenir de l'humain sur leur propre territoire, en laissant de côté les COP à l'autre bout du monde. J'ai l'honneur de vous présenter quelques-uns de ces événements précurseurs sur le territoire français. À Bordeaux. La base sous-marine, bâtiment militaire d'eau et de béton construit par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, est devenu pendant 4 jours le quartier de résistance général des scientifiques en rébellion. Suite à une semaine de manifestations menée un peu partout en France, l'idée était de proposer un espace de rencontre ouvert au public et d'en appeler à un sursaut collectif. La sensation de voir les connaissances scientifiques sous-exploitées ou utilisées à mauvais escient est ce qui amène les scientifiques et citoyens sur ce lieu d'échange. Pour changer de procédé avec les COP, les scientifiques en rébellion ont joué sur différents volets. Conférences à la base sous-marine, projections de films, procès fictifs des gros producteurs de pollution, compositions et lectures musicales engagées, interventions de jeunes actrices et acteurs du Théâtre National de Bordeaux et actions dans la ville, avec notamment cet appel lancé le premier soir depuis le pont Chaban d'Elmar. Une action avec les naturalistes des terres devant le Muséum d'Histoire Naturelle, ou cette déambulation dans le quartier de la Victoire et du marché des Capucins, à renfort de batucada le dimanche matin. À Rennes, Émeric Robin, maire de Rennes et président de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, a organisé le 30 novembre dernier une journée de rencontres citoyennes autour de l'énergie et des mobilités. Après une table ronde le matin sur les mobilités, des discussions ont eu lieu pour la signature d'une charte dans le cadre du plan climat mis sur pied à l'échelle de la communauté d'agglomération. L'idée majeure consiste à intervenir sur un maximum d'éléments du territoire qui impactent le climat. On parle ainsi de créer des pistes cyclables, tout en rénovant les écoles, afin qu'elles soient énergétiquement neutres, ou encore en réhabilitant les habitations des mines. Les âmes éveillées se dressent et crient « Ça ne se passera pas !» en parlant de l'urgence à ce que l'humain ouvre les yeux face à sa propre capacité d'agir en faveur du vivant. Ce type de phrasé n'est pas nouveau. Que diriez-vous de tendre la feuille à un récit fantastique où les habitants d'un monde luttent et parviennent à le sauvegarder pour continuer d'y vivre ? Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi, quelque part dans la province de Gondor.
L'armée de Rohan s'avança alors en silence dans le champ de Gondor, se déversant avec lenteur mais régularité, comme la marée montante par les brèches d'une digue que les hommes croyaient sûre. mais la pensée et la volonté du capitaine noir étaient tout entière occupées par la chute de la cité et, pour le moment, aucune nouvelle n'était parvenue jusqu'à lui pour l'avertir d'un accroc dans ses desseins. Après un moment, le roi mena ses hommes un peu à l'est, de façon à s'interposer entre les feux du siège et les champs extérieurs. Il n'avait toujours pas rencontré d'opposition, et Théoden ne donnait toujours pas de signal. Il finit par s'arrêter une fois de plus. La cité était maintenant proche. Il y avait dans l'air une odeur d'incendie et une véritable ombre de mort. Les chevaux étaient inquiets, mais le roi se tenait sur Nivacrin, immobile, contemplant l'agonie de Minas Tirith. Comme soudain frappé d'angoisse ou de peur, il semblait se reconvilier, aquardi par l'âge, Merry lui-même avait l'impression d'un grand poids d'honneur et de doute. Son cœur battait à coulants, le temps paraissait suspendu dans l'incertitude. Ils étaient arrivés trop tard. Trop tard était pire que jamais. Peut-être Théoden allait-il fléchir, courber sa vieille tête, se retourner et partir furtivement se cacher dans les collines. Puis soudain, Merry le sentit enfin. Sans aucun doute, un changement. Le vent soufflait sur son visage. La lumière introduisait, loin, très loin dans le sud. Des nuages se voyaient faiblement, forme grise reculée qui s'élevait en volute et dérivée. Le matin s'entendait au-delà. Mais au même moment, il y a eu un éclair, comme si la foudre avait jailli de la terre sous la cité. Durant une seconde fracassante, elle se dressa aveuglément au loin, en noir et blanc, avec sa plus haute tour semblable à une aiguille scintillante, puis, dans l'obscurité, se renfermait vain, roulant par-dessus les champs. Un grand grondement. À ce bruit, la forme courbée du roi se redressa brusquement comme l'effet d'un ressort. Il parut de nouveau grand et fier, et, debout sur ses étriers, il cria d'une voix forte, si clair qu'aucun de ceux qui étaient là n'en avait jamais entendu de pareil à chez un mortel. « Debout ! Debout ! Cavalier de Théoden, des événements terribles s'annoncent. Feu et massacre, la lance secouée, le bouclier volera en éclats. Une journée de l'épée, une journée rouge avant que le soleil se lève. Au galop maintenant ! Au galop, à Gondor ! » Là-dessus, il saisit un grand corps des mains de Gudalf, son porte-étendard, et il lança une telle sonnerie que le corps se rompit. Et aussitôt, tous les corps de l'armée furent élevés à l'unisson, et la sonnerie des corps de Rohan en cette heure fut comme une tempête sur la plaine et le tonnerre dans les montagnes. Au galop maintenant, au galop, à Gondor! Le roi cria soudain un ordre à Nivacrin, et le cheval bondit en avant.
Les seigneurs du monde n'iraient pas loin sans les sœurs et frères d'armes qui peuplent leur rang. Certains artistes contestataires tentent de nous dévoiler un but pour lequel œuvrer ensemble, à savoir la sauvegarde d'un avenir commun, où la diversité des regards est source de grandes avancées. L'exposition « Montre-moi ton bidon et je te dirai qui tu es » de Romuald Azoumet est composée de masques originaux. En utilisant des jerrycans usagés, cet artiste plasticien tente de retransmettre les conséquences du néocolonialisme sur l'Afrique, à savoir l'exploitation du pétrole et l'emprunt sans retour d'œuvres culturelles telles que les masques de cérémonie africains. Ainsi, en découpant le haut des jerrycans, la poignée devient nez, le bouchon devient bouche, cheveux en tissu et cordes confèrent à ce mélange improbable une dimension poétique très particulière. Pour l'artiste, ces objets symbolisent le Bénin, car ils sont omniprésents dans les rues. Quasiment personne n'achète d'essence à la pompe dans le pays. On l'achète dans la rue. Elle provient du trafic avec le Nigérien voisin. D'autres artistes font du pétrole des œuvres pour dénoncer sa dominance sur le monde. L'artiste Andrei Molotkin mélange pétrole et sang pour en faire des sculptures. Il injecte ce mélange dans des blocs en PVC transparent, creusés d'un message qui apparaît donc en noir. Son œuvre Yes comportait les trois lettres représentant le yen, la monnaie japonaise, le E pour l'euro et le S de dollar. La démarche de l'artiste étant de dénoncer le pétrole comme un élément qui profite aux monnaies puissantes. Pour terminer ce micro-tour des artistes plantant des graines, laissez-moi vous présenter Seip, un amoureux du land art, cet art éphémère qui s'intègre dans le paysage. Avec sa bouteille en plastique éphémère de 1000 mètres carrés, dessinée sur une parcelle agricole dans le massif des Vosges, l'artiste interpelle sur ces déchets plastiques dérivés du pétrole qui jonchent nos espaces naturels. Sa peinture est une fabrication personnelle composée de craie et de charbon qu'il mélange à de l'eau. Un processus 100% dégradable pour réaliser sur l'herbe des œuvres éphémères, à grande échelle et respectueuses de l'environnement. Ses créations nous poussent à oublier ces barrières qui empêchent notre imaginaire de créer un lendemain, où l'humain ne se définit pas par sa seule espèce, mais bel et bien par toutes celles qui se côtoient au quotidien. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons en sortie de champ pour nous nourrir du vivant. Direction le Venezuela.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.